Europe 1. 10h30, midi 30. Les pieds.
Les pieds dans le plat.
Dans le plat.
Cyril Hanouna.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 11h04. On est encore ensemble pendant 1h30. 1h30. Durant lesquelles on va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Je vous le dis tout de suite, ça va être une émission intéressante, comme d'habitude, mais encore plus aujourd'hui, parce que l'invité qu'on a, il m'intéresse particulièrement.
Il vous fascine, hein.
Ah, mais je vous dis, vraiment.
Ce matin, vous êtes.
Autant il y a des invités, je me suis dit, bon, ça va. Autant là, hein, vraiment.
C'est un autre monde.
Non, c'est pas vrai. Tous les invités sont intéressants, sinon on les inviterait pas, je vous le dis tout de suite. Il y en a un autre qui est intéressant et qui vient de perdre le duel, c'est Laurent Guimier.
C'est intéressant, ouais.
Laurent Guimier.
Ça, c'est vraiment, on est content là quand on entend ça.
Mais c'est pas grave, je vous l'ai dit, vous êtes beau gosse maintenant, ça suffit.
Non, mais il est meurtri, vous l'avez meurtri.
Vous n'avez plus besoin d'être cultivé, hein, vous
d'accord.
Savez, voilà.
Bah, on va voir.
Jérémy Ferrari est là. Bonjour. Valérie Benahim.
Rebonjour.
Et bien sûr, Pierre Belmar.
Bonjour à tous.
Pierre Belmar qui nous racontera une histoire à 11h30. Et puis, vous le savez, entre midi et midi 30, on va jouer sur Europe 1. Il y aura plein de cadeaux à gagner. Valérie Benahim, faites-nous rêver.
Et il y aura notamment pour le grand jeu des pieds dans le plat, un séjour grâce à Vacances Bleues. 7 jours et 7 nuits pour 2 enfants et 2 adultes en demi-pension à l'hôtel 3 étoiles, les chalets du Prarian à Megève. Et puis, si on ne fait pas les 5 bonnes réponses et qu'on n'en a que 4, ce qui est pas mal non plus, on vous offre 4 passes pour le parc Astérix pour venir en famille profiter des attractions Peur sur le parc pour les petits et les grands.
Est-ce que vous avez remarqué, chers auditeurs d'Europe 1, à chaque fois qu'elle doit parler des cadeaux, Valérie Benahim, elle démarre par un petit bourville. Bah les gars, le voyage. Merci, Valérie Bourville Benahim. Il est avec nous ce matin, c'est un grand honneur de l'avoir. Bernard Werber est avec nous. Merci d'être là, Bernard.
Merci à vous de m'avoir invité.
Bernard Werber, écrivain mondialement connu pour sa trilogie des fourmis. C'est l'homme aux 20 millions de livres vendus.
Incroyable.
Et traduits en 35 langues.
Incroyable.
Et c'est aussi un adepte du tai chi.
Ah oui.
Qu'est-ce que c'est que le tai chi, Bernard?
Je dirais que c'est comme une petite gymnastique qu'on fait le matin pour faire bouger toutes les articulations. C'est une manière aussi de se rappeler qu'on a un corps. Nous, les écrivains, on se retrouve l'essentiel du temps devant un ordinateur, c'est à sûr. Taper sur un ordinateur. Il y a un moment, il faut se rappeler qu'on a des jambes, un bras, qu'on bouge. Donc le matin, mon premier geste en me levant, ça consiste à faire cette petite danse.
Ah oui. Vous dansez le matin, vous aussi?
Voilà, je danse le matin. Et ça me permet aussi de respirer.
Ah oui.
Parce qu'on respire très mal.
Est-ce qu'on peut faire du tai chi sur les sardines de Patrick Sébastien?
Ça va pas être facile. Le rythme est un peu trop rapide, il me semble.
Oui, c'est ça. Bernard Werber, vous venez nous voir pour votre dernier roman, Les Micro-Humains, donc sorti le 3 octobre chez Albin Michel. Mais on va revenir d'abord, donc, je vous dis, sur cette passion du tai chi. C'est parce que vous êtes une star en Asie, vous y êtes mis ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je faisais du tai chi avant d'être connu. Mais je ne suis pas une star en Asie, c'est précisément
si,
là.
Vous êtes adulé au Japon, en Corée du Sud, j'en parle même pas.
Bah oui.
Ils vous accueillent comme une rock star.
Mais c'est après. Bon, d'accord. Mais je me suis intéressé à l'Asie avant que l'Asie s'intéresse à moi.
Ah, d'accord. Bah, c'est comme avec ma femme, moi. Valérie Benahim.
Mais justement, on vient de le dire, star au Japon, star en Corée du Sud, en Russie, en Ukraine, c'est la même chose. Les gens attendent des heures pour une signature sur les livres. Quel est le pays où vous sentez le mieux, vous sentez le mieux accueilli, mieux compris?
Alors la Corée du Sud, mais la Corée du Sud, ce qui est marrant, quand je suis parti en Corée du Sud, je ne savais pas la situer sur un atlas.
Oui.
Et d'ailleurs, vous pouvez poser la question, la plupart des gens ne savent pas où se trouve la Corée du Sud.
C'est au-dessus de la Corée du Nord.
Voilà. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai découvert un pays surtout neuf,
oui.
C'est-à-dire avec des gens qui sortaient d'une dictature et qui avaient envie de tout réinventer. Et vu qu'ils ont envie de tout réinventer, en fait, ils regardent pas du tout leur passé, ils regardent leur futur.
Ouais.
Et vu que j'écris des choses qui parlent
c'est du ça,
futur, j'étais en phase.
Ouais,
mais ils sont formidables. Et en plus, ils ont envie de gagner.
Ouais. Alors, votre offre, ce sont des best-sellers mondiaux. Les fourmis, 20 millions d'exemplaires vendus.
Ouais.
Au-delà des sous que ça rapporte, 20 millions. Est-ce que c'est un chiffre qui vous dit quelque chose? Vous vous dites, je sais pas, je suis dans la rue, il y a forcément 10 personnes que je vois autour de moi qui ont lu le bouquin. Enfin, qu'est-ce que physiquement ça inspire chez vous?
Alors, je veux dire strictement rien,
ouais.
Parce que mon seul souci, c'est de faire une bonne intrigue. Et en permanence, je suis hanté par mon histoire. C'est-à-dire, mon souci, c'est de faire ce qu'on appelle l'envie de tourner la page. Donc, je pense à mes personnages. Après, le reste, c'est autre chose. C'est-à-dire, même le fait que je sois là, c'est pour parler de mon travail.
Ouais.
Mais c'est mon travail qui m'intéresse. C'est
pas
après l'image,
l'image
que ça donne.
C'est pas les lecteurs quand même que vous avez séduit.
Après,
c'est des millions de gens.
Après, je les rencontre quand je donne des conférences.
Ouais.
Ils me posent des questions. Il y a un échange. Mais mais à aucun moment je me dis je suis un écrivain célèbre, je suis un auteur best-seller. Ouais. D'ailleurs, mon objectif était juste d'être publié. J'ai jamais voulu être diffusé. C'est plus mon éditeur qui s'est débrouillé pour que je devienne un best-seller. Mais moi-même, l'objectif était juste que mon livre sorte.
Tiens, il y a une cinquantaine de personnes dans le public. Il y a 20 millions de personnes qui ont lu Les Fourmis. Qui a lu Fourmis? Qui a lu?
Il y en a deux. Petit à petit, il y en a trois.
En fait,
ils ont peur que vous leur demandiez quelque chose.
Non, parce que surtout, il y en a trois et il y en a un qui a pas compris, qui a cru. Qui a lu La Cigale et la Fourmi? Ça n'a rien à voir. Oui, Valérie Bélé.
Oui, justement, ce fameux premier livre, Les Fourmis, qui vous a révélé au grand public, il a mis du temps à sortir. Vous avez écrit pas moins de dizaines, centaines même de versions de ce livre, dont une de 1400 pages quand même. Vous avez essuyé plusieurs refus d'éditeurs. Est-ce que vous êtes demandé à quoi aurait ressemblé votre vie si justement vous n'aviez pas parvenu, si vous n'avez pas persévéré?
Ah ben, je pense que je serais vraiment
malheureux,
très bas, peut-être même journaliste, l'horreur.
Ah bah d'accord.
Il a failli dire, je serais peut-être même dans les pieds dans le plat.
J'étais journaliste pendant 7 ans et j'ai vécu ça très mal parce qu'il y avait toute une hiérarchie et au bout d'un moment le travail n'avait aucune importance, il fallait juste gérer la hiérarchie. Alors ça c'était ennuyant. Le truc formidable avec le métier d'écrivain c'est qu'on est libre. Mmh. C'est-à-dire le matin je me lève à l'heure que je veux, j'écris en général de 8h à 12h30 et après j'ai pas de chef, j'ai pas de patron, j'ai pas de collègue qui me tire dans les pattes.
Il y a un jour où tout a basculé, comme dirait l'autre, entre le journalisme et la littérature.
Oui, alors je vais raconter rapidement mon histoire. Donc j'étais pendant 7 ans journaliste au Nouvel Observateur. Je me suis présenté à un prix du meilleur journaliste de France. J'ai été élu lauréat. Du coup, j'ai eu un complot de tous les collègues. J'ai été viré. J'ai fait un mois de chômage. Et là, j'ai rencontré au bout de plusieurs mois un éditeur qui était prêt à marcher. Mais ça faisait longtemps que j'envoyais mon livre à tous les éditeurs qui me disaient « On est désolé, mais Les Fourmis, ça intéresse personne. »
C'est juste 20 millions de personnes.
Non, mais maintenant, ça a l'air un peu évident. Mais à l'époque, fallait voir que pour la préoccupation par rapport au mot fourmis, c'est comment s'en débarrasser quand on en a dans sa cuisine.
Non, c'est
tout. C'est pas... attendez, c'est une civilisation parallèle. C'est ce qui me... Jusqu'au bout, je me suis dit, pourvu que personne ne s'aperçoive que c'est une civilisation parallèle, pourvu que personne ne parle de ce livre avant moi.
Eh bien, d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup de fourmis qui nous écoutent sur Europe 1.
On les embrasse.
On va reparler de tout ça avec Bernard Werber et surtout de son nouveau roman, Les Micros Humains. À tout de suite sur Europe 1.
Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1, Cyril Hanouna met les pieds dans le plat.
On met les pieds dans le plat tous les jours sur Europe 1 avec Laurent Guimier, avec Jérémy Ferrari, avec Valérie Benahim et avec Pierre Belmar. D'ailleurs, il y aura une histoire de Pierre Belmar dans un quart d'heure maintenant. Mais pour le moment, nous sommes avec notre invité Bernard Werber qui est avec nous ce matin. Merci Bernard.
Merci.
Merci d'être là. Alors Bernard, nous sommes allés, comme pour tous les invités dans la rue, demander aux gens ce qu'ils pensaient de vous. Écoutez.
Bernard Werber, acteur de cinéma.
C'est un écrivain, c'est tout.
Écrivain de science-fiction, c'est très futuriste.
C'est un scientifique.
J'en ai un dans ma bibliothèque, Les Fourmis.
Les Fourmis, ça me parle, mais je ne l'ai pas lu.
Ça m'apparaît mi-science-fiction, mi-réalité de la vie des fourmis.
Chaque fois que je vois en interview, je suis très intéressé.
C'est un petit gars tout chaud.
Bien pourtant.
C'est très fantasmagorique, avec une recherche philosophique. Voilà, c'est plein d'éléments comme ça, mais j'aime beaucoup l'écriture.
Je pense que pour écrire déjà les livres qu'il écrit, il doit être quand même intelligent et puis avoir une imagination quand même assez importante.
Je ne connais pas Bernard Werber, mais je connais très bien Mélenchon.
Rien à voir. Il voulait absolument placer Jean-Luc Mélenchon en fait dans ce micro-trottoir.
C'était le grand défi.
Voilà, c'était le grand défi européen.
Bernard Werber. Humble.
Bernard, il y a quelqu'un qui dit que vous êtes enveloppé, pas du tout.
Mais je pense qu'il l'a confondu avec Jacques Weber.
Oui, comme le premier, il parlait de l'acteur, de Jacques Weber, je pense.
Voilà.
Il y a un air au milieu qui change tout.
C'est ça.
Et c'est vrai que cet air change tout. On va parler donc de votre livre. Donc vous venez nous voir, donc comme je l'ai dit, pour Les Micros Humains, qui est sorti le 3 octobre aux éditions Albin Michel. Donc vous y racontez l'histoire d'ingénieurs français qui ont mis au point une société de petits individus de 17 cm appelés EMAC. On dit EMAC?
EMAC. MH en fait.
C'est ça, c'est EMACH.
C'est les initiales MH, micro humain.
C'est ça. Alors décrivez-nous précisément à quoi ressemblent ces individus.
C'est des petites poupées, c'est des petites femmes de 17 cm, essentiellement des femmes, 90% des femmes.
Ça va, on se fait plaisir.
Mais je crois que c'est une vision... Quand j'étais à l'école, on m'avait demandé si vous pouvez demander au Père Noël un cadeau, qu'est-ce que vous demanderiez. J'avais dit j'aimerais être entouré de petits humains qui soient mes amis. Ouais. Et je crois que maintenant j'ai réalisé ce fantasme, j'ai créé ça. Mais je me suis inspiré de vrais scientifiques.
Vous connaissiez pas Cyril Hanouna parce qu'il faisait cette taille à votre âge.
Et donc il y a des vraies découvertes scientifiques qui montrent que les espèces animales, quand elles ont des problèmes, deviennent plus petites, plus féminines et plus solidaires. Et donc, il y a eu 5 extinctions sur la Terre. Et à chaque extinction, les espèces sont devenues plus petites. C'est pour ça que les dinosaures sont devenus des lézards, les mammouths sont devenus des éléphants, les grandes libellules sont devenues les petites libellules.
Ça veut dire que donc, les ancêtres de Cyril Hanouna ne sont pas glorieux.
Hein. L'adaptation se fait vers la féminisation
donc, c'est vrai que dès qu'on
et la réduction.
Soucis, on
devient plus petit.
On devient plus petit.
Il y a une raison, on mange moins, on détruit moins la planète, on est plus adapté. Les êtres petits sont plus adaptés que les êtres grands.
Ah, c'est plus solidaire.
Attendez, si vous dites qu'aujourd'hui les hommes détruisent moins la planète,
non,
je suis pas d'accord.
Pas. Je dis juste que l'adaptation logique de notre espèce, mais sur des centaines d'années, ça va être forcément de réduire notre taille pour tout simplement on détruise moins la planète.
Ah oui.
Comment ça arrive dans votre cerveau cette histoire? Moi, ça me fait penser à Arthur et les Minimoys, mais vous n'allez pas me dire que vous avez pompé Luc Besson.
Non, il y a Swift avec Gulliver.
Non, vous êtes inspiré de Luc Besson, excusez-moi.
Merci. Alors.
Le mauvais esprit des garçons autour de la table.
Mais voilà, excusez-moi.
Non, en fait, il y aurait une autre référence. En effet, c'est Jonathan Swift avec Gulliver. Et les chiens, Maman, j'ai rétréci les gosses. Enfin, il y a plein de références sur l'idée de qu'il puisse y avoir une espèce plus petite. Mais en fait, ma source principale d'inspiration, c'est tout simplement l'observation des fourmis. J'y reviens encore. C'est-à-dire que les fourmis, jadis, étaient grandes. Elles étaient indépendantes. Et elles étaient avec un équilibre entre les mâles et les femelles. Et maintenant, elles sont allées vers la féminisation, la réduction de taille et grandes cités solidaires. Donc, je me suis dit, une espèce qui a 120 millions d'années nous montre la voie à nous qui avons que 7 millions d'années. Donc, c'est l'espèce aînée. J'ai juste observé la nature. La nature fonctionne comme ça. Toujours plus petit, toujours plus féminin, toujours plus solitaire.
Alors, quel est l'intérêt de ces petits bonhommes, alors?
À quoi ils servent? C'est tout le thème des micro-humains. Ah oui. Donc, mes deux héros, David et Aurore, montent une boîte qui s'appelle Pygmé Prod, qui va les utiliser. Alors, au début, ça va être pour aller dégager les gens dans, par exemple, au Chili, quand il y a des mineurs qui sont coincés. Là où les humains passent pas, les micro-humains ils passent.
D'accord.
Après, pour aller au bout d'un moment.
À Fukushima,
on les utilise. Après, dans tous les endroits où les hommes veulent pas aller parce qu'ils sont trop grands et parce qu'ils osent pas le faire, par exemple, nettoyer les canalisations, au bout d'un moment, on les utilise pour tout. Ça devient des sortes de petits esclaves. Et le thème des micro-humains, c'est à partir de quel moment ces êtres peuvent revendiquer le titre d'être humain et d'égal. Et ils peuvent dire, attendez, vous n'avez plus le droit de nous exploiter, maintenant, on est des humains à part entière.
Ouais, on peut voter, on existe.
Donc, ces petits êtres vont partout où les hommes ne veulent pas aller. En fait, c'est ça.
Oui, en plus, ils sont tout neufs. Nous, on est tous issus de tout un passé douloureux avec toute notre histoire d'état d'emmerdement. Là, ils arrivent, ils sont tout neufs, ils sont tout propres.
D'où Passepartout dans Fort Boyard, en fait.
Voilà. Oh, ils sont plus petits que Passepartout. Ça se ferait une moitié de Passepartout.
On l'embrasse. D'ailleurs, c'est André qui nous écoute.
Vous les avez dessinés, non, ces images?
Ah oui, alors moi je storyboard mes romans, c'est-à-dire je fais des cadrages, des plans de comme si c'était déjà un film. Ça m'aide à transmettre ça au lecteur parce que je considère qu'un bon roman c'est un roman dans lequel on est plongé dans l'image, pas dans du son. Il y a du son avec la musique des mots, mais il doit y avoir beaucoup de scènes spectaculaires et ça doit aller très vite. Et donc pour ça j'ai besoin de storyboarder, donc je dessine.
Alors on va faire un petit quiz futur, Bernard Werber, donc le spécialiste du futur. Comment pourrons-nous bientôt communiquer à distance sans téléphone? Comment on va faire?
Ah, vous voulez que je vous donne une réponse tout de suite?
Bah oui.
Bon, par télépathie, c'est un petit travail à faire, mais on devrait y arriver d'ici quelques
centaines. Vous y arrivez, vous?
Pour l'instant, très faiblement.
C'est vrai? Vous voulez qu'on fasse un numéro de télépathie tous les deux?
Ah oui, à la radio, ça va être super.
Vous avez essayé de savoir ce que je pense? D'accord.
Ah non, mais j'ai pas dit que j'avais ce talent. Hein.
Ah,
j'ai dit que dans le futur, je pense que l'humanité aura ce talent.
Donc pour l'instant, vous n'avez aucun talent, juste écrire.
Voilà.
D'accord, c'est bon, voilà. Par quel moyen de transport nous déplacerons-nous dans 100 ans?
Le vélo.
Ah oui? Bon, tout ça pour revenir au vélo.
Oui. On est bien revenu à la trottinette. On imaginait que dans le futur, les gens partiraient de leur balcon en avion.
Ouais.
Et maintenant, on voit les cadres supérieurs en trottinette. Donc le vélo, ça m'a l'air le futur.
Est-ce qu'on va remplacer le steak frites par des pilules de nourriture?
Je pense plutôt une sorte de tofu, mais je crois que le steak frites, il y a une excitation carnassier, parce que on a des canines, donc on a une excitation de la viande, et on n'est pas prêt de s'arrêter. Malheureusement, moi je suis plutôt végétarien.
Dans le duel que Valérie Benaïm avait 4 canines en plus. Qu'est-ce qu'on va faire pour recycler les chemises de Laurent Guimier dans 100 ans?
Le recyclage, c'est un grand enjeu. Et notamment, ça pose un gros problème parce qu'il y a des îles qui sont en train de se créer d'ordures.
Ah oui.
Et je crois que bientôt, ces îles, on va finir par les habiter. C'est-à-dire qu'il y a entre l'Europe et l'Amérique des îles de plastique. Ouais. On pourrait imaginer qu'on finisse par construire des maisons dessus.
Eh oui, des îles d'ordures. Et il y a beaucoup de monde du showbiz dedans. On va appeler. On va se retrouver dans un instant avec Bernard Werber. On va voir si vous le connaissez bien autour de la table. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Les pieds dans le plat.
Tous les jours, 10h30, 12h30.
Cyril Hanouna.
Nous sommes sur Europe 1, il est 11h24, on est en direct, en public, avec un public déchaîné. Et puis bien sûr, il y a toute l'équipe, il y a Laurent Dumier, Jérémy Ferrari, Valérie Benaïm, Pierre Belmar. Une histoire de Pierre Belmar dans 5 minutes maintenant. Mais pour le moment, on va voir s'ils connaissent bien notre invité, Bernard Werber. Alors, des questions sur Bernard Werber. Au lycée, Bernard a eu du nez en montant un journal qui s'appelait Euphorie. Il a alors appris deux techniques, une classique, l'imprimerie, et l'autre beaucoup plus étonnante pour illustrer des histoires. Laquelle ? Il nous en parle un petit peu il y a un instant.
C'est une manière de peindre ou de dessiner ?
Non.
Caricature.
C'est à moi de répondre ?
Non, c'est à nous.
C'est pas à vous.
D'accord.
C'est d'abord à eux.
Pour illustrer.
Mais je pense que vous allez vite répondre parce que je les sens pas du tout.
Vous faisiez des caricatures, non ? Non, c'est pas vous qui dessinez.
Pour illustrer ces histoires, donc je vous dis, il avait deux techniques, une classique, l'imprimerie, et l'autre, la parfumerie.
Oui.
Ah bon ?
Donc, je me suis dit, il faut captiver le maximum de sens pour que les gens soient complètement plongé dans l'histoire.
Oui.
Et donc j'ai pris des cours de parfumerie et on m'a offert une orgue, enfin c'était un parfumeur qui s'appelait Berdouze sur Toulouse, qui m'a offert une orgue avec lequel j'ai fabriqué des parfums, plutôt des odeurs, parce que les histoires c'était pas forcément des odeurs agréables.
Oui.
Donc je fabriquais toutes sortes d'odeurs bizarres qui étaient l'odeur de l'histoire.
C'est
après
ce
j'ai
style,
essayé,
hein.
J'ai proposé à mon éditeur de continuer dans cette voie, c'est trop compliqué à fabriquer, mais j'ai toujours rêvé de captiver tous les sens en même temps pour que les gens oublient le quotidien et soient complètement plongés dans le roman.
En 1980, Bernard entreprend avec un ami une traversée des États-Unis de New York à Los Angeles en stop.
Mm-hmm.
Mais ils vont devoir accomplir leur périple avec beaucoup moins d'argent que prévu au départ.
Ah, vous
pourquoi
en savez des choses.
Ah,
vous
oui.
êtes fait dépouiller au départ, non ?
C'est pas loin. C'est...
Ou alors vous avez tout perdu au jeu ?
Bah, c'est ça, voilà.
Ouais.
C'est ça. Ils se sont fait avoir au bon taux.
Au bon taux. Ah. Je connaissais pas le coup des trois cartes. Depuis, j'ai appris de la magie, mais je comprenais pas. On avait mis le doigt sur la carte rouge, elle se retourne, elle est noire, on était ruinés.
Ah, ouais.
Et là, autre leçon d'humilité, bah, on a dû rester 2 mois aux États-Unis à vivre comme des clochards.
Et depuis,
c'est pas mal.
Il est champion de bonneto.
Il a appris la magie.
Exactement.
Depuis, ça marche. Quand il y a des bonneto, je regarde et je vois, parce qu'en fait c'est un système de complices, c'est pour ça qu'on se fait avoir. Et je regarde comment c'est fait. Et bon, il y en a qui sont plus ou moins doués. C'est un petit spectacle de théâtre. En fait.
Dernière question. Bernard Werber a de nombreux fans à travers le monde qui lui ont offert plein de cadeaux. Mais le jour de son anniversaire, une fan lui a fait le plus beau des cadeaux. Lequel ?
Le plus beau des cadeaux.
Ça peut être quoi? Le mariage.
L'amour. Qu'est-ce que c'est que cette affaire?
C'était au salon du livre de Nice. Il y a une lectrice qui est arrivée qui m'a dit: aujourd'hui c'est mon anniversaire, son anniversaire à elle, et j'ai envie que vous soyez mon cadeau. Donc qu'elle était vraiment assez splendide. J'ai arrêté les dédicaces et on est allé prendre un verre. On est resté trois ans ensemble.
J'ai eu la même chose pour mon anniversaire avec Pierre Belmar. Je suis votre cadeau. Vous restez avec nous, Bernard Werber. On se retrouve avec l'histoire de Pierre Belmar sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1, tous les jours, 10h30, 12h30.
Les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
Nous sommes dans les pieds dans le plat sur Europe 1 avec Bernard Werber, qui est notre invité ce matin. On est bien, on est content de vous avoir, vraiment, je vous le dis, vraiment très très heureux. Et puis c'est intéressant de vous écouter, on va parler encore science-fiction dans un instant, mais pour le moment, il y a l'histoire de Pierre Belmar. Pierre, avant tout, vous aimez la science-fiction ou pas ?
Beaucoup, j'ai découvert ça moi avant la guerre, c'est vous dire, les romans anglais, américains surtout.
Ah, c'est ça. Je dois préciser une chose, on a eu une petite discussion avec Pierre Belmar tout à l'heure, il m'a parlé qu'il a rencontré un avocat lilliputien.
Oui.
Il s'avère que j'avais interviewé une femme lilliputienne.
Un avocat lilliputien, mais c'était Nicolas Sarkozy.
Un lilliputien, c'est même pas un maître. Hein.
Et donc j'avais que ce témoignage. En fait, je l'avais rencontré quand j'étais journaliste. J'avais interviewé. Elle était dans une foire. Et c'était Madame Angelina. Et elle était toute petite. Elle s'était assise sur mon dictionnaire. Et après, quand j'ai raconté ça, tout le monde disait mais c'est pas vrai. Alors j'avais la photo. Mais personne voulait croire que les lilliputiens, c'est pas pareil que les nains.
Oui.
D'ailleurs, ils sont très racistes envers les nains. Ils aiment pas du tout les nains.
Ils se détestent.
Ils sont une centaine. Et en effet,
ils sont parfaits.
Elle m'a raconté l'histoire des lilliputiens qui m'a inspiré, entre autres, les micro-humains.
Ah,
et donc, j'étais content de voir avec Pierre Belmar que lui aussi était...
Et il y a un film tourné par les Américains avec uniquement des lilliputiens, qui a été tourné avant-guerre, qui est un film en noir et blanc.
C'est
un film de fiction.
On le fera gagner en DVD dans un instant. Pour le moment, c'est l'histoire de Pierre.
Europe 1, les pieds dans le plat.
Pour le moment, c'est l'interview Les pieds dans le plat avec Bernard Werber. Bernard...
Musique de stress.
Ils ont tous amené une question. Que ce soit Laurent Guimier, que ce soit Jérémy Ferrari, que ce soit Valérie Benaïm ou Pierre Belmar. Il y a 4 questions, vous allez en choisir que 3. Donc, il y en aura un qui posera pas de questions. Celui que vous déciderez.
Celui que vous n'aimez pas.
Vous démarrez par qui, déjà? Qui pose la première question?
Valérie.
Valérie Benaim, parce que vous la connaissez un petit peu, hein.
On s'est croisés.
On a la chance de se connaître un peu.
Voilà. C'était elle, les 3 ans?
Non.
Trois heures avec Valérie.
Vous dites que, Bernard, vous dites que vous écrivez avec un casque et que vous êtes dans, je cite, l'émotion de la musique lorsque vous écrivez. Ouais. Est-ce qu'on peut savoir avec quel chanteur vous avez écrit, évidemment, votre best-seller Les Fourmis et puis ce dernier ouvrage-là?
Alors, j'écoute beaucoup Michael Field parce que c'est une musique répétitive qui fait que ça crée une nappe sans occuper l'esprit. Donc, il faut pas qu'il y ait de paroles, il faut pas que l'esprit soit accroché par la musique. Ouais. Il faut juste que ça crée une ambiance. En fait, j'écoute Michael Field, j'écoute les musiques de films. Genre Clint Mansell qui avait fait The Mountain ou Requiem for a Dream ou Zimmer, par exemple Last Samurai, des choses comme ça.
Et vous avez besoin de musique, vous pouvez pas écrire dans le silence?
Alors, je n'écris que les scènes de bataille, d'amour et de description en musique. Tout ce qui est dialogue, j'ai besoin d'entendre la voix des personnages. Donc là, évidemment, je mets pas de musique. Mais quand vous avez le souffle d'une musique qui vous emporte, il y a une sorte de joie d'écrire qui est extraordinaire. Oui. Je souhaite à tout le monde connaître ce plaisir.
Non, vous voulez savoir si vous avez déjà essayé sur Big Bisou de Carlos ou quelque chose comme ça.
C'est différent, c'est pour des scènes différentes.
Moi, j'ai écrit mon dernier bouquin sur Macumba de Jean-Pierre Madère. C'est vraiment un tube. Alors, Bernard, vous avez encore 2 questions. Vous avez Pierre Belmar, Laurent Guimier et Jérémy Ferrari.
Jérémy Ferrari.
Ah. Il vous intrigue de par sa coiffure?
Non, mais je connais ses sketchs, je le trouve très bon.
Ah, c'est gentil. Vous dites que vous déjeunez tous les midis avec des scientifiques et des blouses blanches pour un peu nourrir vos livres.
Je voulais savoir
des historiens. Ouais. Je voulais savoir si vous êtes sûr que vous ne viviez pas plutôt dans un hôpital psychiatrique.
C'est possible, mais alors vous en faites partie.
Ah bah, on pourrait en faire partie. Allez, il vous reste une question.
Laurent Guimier.
Alors, en 2009, vous avez déclaré dans Le Monde, l'idéal par rapport au fisc serait que j'écrive un livre tous les 3 ans. Là, j'en fait 2 pour rien. Ça veut dire que vous écrivez à perte, quoi?
Ça veut dire que j'écris pour le plaisir et pas pour la gloire et la fortune. Ouais. Parce que si je voulais la gloire et la fortune, je quitterais la France comme la plupart des autres écrivains français.
Donc les impôts, c'est pas de la science-fiction, quoi.
Non, bah, on est artisans, on paye normalement notre truc, ouais. Mais en même temps, je considère ça normal de participer à l'effort national, par rapport à mon comptable, il m'a dit ça sert à rien que tu fasses un livre tous les ans.
Si vous voulez, j'en signe un des deux, moi. Ça me fait
plaisir. C'est ça, si vous voulez, on peut en faire un des livres. On peut signer Bernard Werber. Hein.
Si ça peut dépanner.
Ne vous embêtez pas. On va se retrouver dans un instant avec le duel de science-fiction entre l'équipe des Chewbacca et l'équipe E.T. Merci Chewbacca. Oui, il viendra nous rendre visite. À tout de suite sur Europe 1.
Tous les jours, 10h30, 12h30, sur Europe 1.
Cyril Hanouna. Mais les pieds dans le plat.
Il est 11h45, nous sommes sur Europe 1 et on se régale avec Bernard Werber ce matin qui vient nous voir pour Les Micro-Humains, son nouveau roman, et on apprend beaucoup de choses aux côtés de Bernard. Bernard, moi je pourrais passer des semaines à vos côtés pour apprendre plein de trucs, comme ça je me sentirais plus intelligent à côté de vous. Est-ce que vous pouvez me prendre une semaine chez vous?
Mais pourquoi pas?
Vous avez un lit superposé?
Je dois avoir de la place, je dois avoir un canapé à peu près.
Bon, très bien, je vais aller habiter chez Bernard Werber, vous allez voir, je vais être bien et vous n'allez plus me reconnaître après. On va faire un duel de science-fiction. D'un côté, nous avons l'équipe E.T. avec le doigt tendu, avec Bernard Werber et Pierre Belmar. De l'autre côté, l'équipe Chewbacca, composée de Valérie Benaim, Laurent Guimier et Jérémy Ferrari. Le principe est simple, je pose des questions, une équipe après l'autre doit répondre. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Vous avez 15 secondes pour répondre, d'accord?
D'accord, la thématique c'est le futur, c'est...
Science-fiction.
Science-fiction.
Oui. Merci, n'hésitez pas à me poser d'autres questions.
Très bien.
Vous jouez avec nous également sur Europe 1, essayez de répondre. Comme les deux équipes, on va déjà démarrer avec l'équipe E.T.
Oula.
L'équipe Belmar Werber.
Ambiance.
L'équipe Belmar Werber, voici votre question. Dans le film Retour vers le futur, quel modèle de voiture c'est
L'Oréane. Une DeLorean.
DeLorean, voilà, très bien, bonne réponse. Quel modèle de voiture sert de machine à voyager dans le temps? La DeLorean, voilà.
On peut râler sur la facilité de la question de l'équipe adverse ou pas?
Je ne vois pas du tout de qui vous êtes. Allez, équipe Chewbacca.
Déjà, c'est
quel
un loser.
Pourri.
S'ils ne savent pas, on peut compléter.
Chewbacca, voici la question. Elle est simple aussi. On démarre tranquillement. Dans l'émission de vulgarisation scientifique Temps X, des frères Bogdanov, apparu sur TF1 en avril 1979, quel est le comédien qui conduit leur vaisseau?
En 79, j'étais même pas né, moi.
Le comédien, est-ce que ce ne serait pas Patrick qui est venu chez nous, là, Franck Dubosc.
D'accord, elle démarre par Patrick.
Non, parce...
Ah oui, si c'est ça.
C'est Franck Dubosc.
C'est Franck Dubosc.
D'accord, parce qu'elle est encore dans Patrick Chirac de camping.
De camping, oui.
Franck Dubosc, c'est la bonne réponse.
Ouais. Ouais.
Un point parti.
C'est l'avantage d'être vieux. Hein.
C'est allez. Ce qu'elle te dit, la vieille.
S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes une équipe. Vous êtes l'équipe des Chewbacca.
Ça se voit.
Restez soudés, s'il vous plaît. L'équipe E.T.
Oui, enfin, oui. L'équipe, il y a un E.T. Moi, je suis là.
Vous êtes en
accompagnement. Rien si, du tout de ça.
Si, là, vous pouvez aider, ah Bernard bon, Verber.
Ah ouais. Je sens déjà que je ne connais pas la réponse.
Quelle allons-y. Grande voix de la variété française chantait ça en 1963?
Oui, je suis un vrai martien et je viens sur la Terre. Ben, pour vous dire que tout va très bien chez les petits affaires.
Bon, c'est un mec qui n'avait pas peur du ridicule déjà.
Non. Alors là, c'est toi.
Pas, je crois que c'est. Vous croyez que c'est un mec?
C'est
oui, une dame
oui,
plutôt,
oui,
non,
oui,
c'est un mec.
C'est un grand artiste. Hein.
C'est un, oui.
Immense.
Oui, c'est un. Il faisait partie du français.
Non, mais c'est moi qui posais la question.
Non, mais je dis, il faisait partie de la comédie française.
Non, mais il n'y a pas d'indice, hein.
Non, mais je posais la question pour.
Vous ne savez pas donner un chanteur comme ça, 1963.
Non, c'est pas un chanteur.
Si, c'est un chanteur.
Ah, c'est un chanteur.
J'ai dit quelle grande voix de la variété française.
Pas du tout.
C'est pas Johnny Hallyday, un truc comme ça.
Non, il n'était pas né là.
C'est Henri Salvador.
Ah, logique.
On le reconnaît pas du tout.
Bah oui, c'était le but. Allez,
on a
un
chance,
point
là.
Partout.
Voilà, c'est parti.
Équipe Chewbacca, de quel film de science-fiction qui a cartonné au cinéma est extrait cette bande originale?
Ah, ça me dit quelque chose.
Si.
Alors, allez, il me faut une réponse. 2 secondes.
Ah non.
Il me faut une réponse.
Ah, moi, je sèche.
Au hasard, Rencontre du troisième type.
Iron
Rencontre
Man,
du troisième du tout, type. Mais... Ce film a fait 6 300 000 entrées au cinéma. C'était le gendarme et les extraterrestres.
Ah, là, c'est un piège, c'est dégueulasse.
Oui, attention, il reste.
On avait le même.
Une question pour vous départager. La voici. Si on pouvait faire la distance Terre-Lune à vélo, combien de jours nous faudrait-il si on y allait d'une traite sans s'arrêter en roulant à 20 km/h? Distance Terre-Lune à vélo sans s'arrêter en roulant à 20 km/h. La réponse de l'équipe E.T.
Moi je sais qu'en fusée ça prend 4 jours.
Donc en vélo,
il y a 300 000 km qui ont divise par 20.
Il me faut une réponse.
300 000 par 2, ça fait déjà 150 000. 15 000.
Oui. Comment vous dites alors
c'est
combien
quoi
de jours en jour Allez, vite.
Surtout qu'il y a quand même rien à gagner.
C'est important.
Bon, on va dire 6 mois, allez.
6 mois. Oui, mais là, ça m'arrange pas, je dois faire la conversion en jour.
6 voilà.
mois, ça fait bien sûr 180 jours. Et vous à vélo,
5000 jours.
5000 jours. Bah, je vais vous dire, il y a 384 400 km.
Ah oui, ça fait beaucoup.
Terre-Lune, à 20 km/h, ça fait 800 jours. 800 jours.
On a gagné?
Non, on n'avait pas gagné.
Vous avez...
C'est l'équipe E.T. qui a gagné, mais qui était très loin quand même. Bravo l'équipe E.T. L'équipe E.T. qui gagne le DVD du gendarme et des extraterrestres. On s'écoute Abba tout de suite. Gimme a man after midnight. C'est bien. Donnez-moi un homme après minuit.
Vous allez faire quoi?
Pour manger ?
Non, pas du tout. On va jouer à la PlayStation. Vous êtes sur Europe 1. Il est 11h51. Gimme a man after midnight. C'était en 1979 ça. Et je vous rappelle qu'Europe 1 présente Disco, le spectacle musical aux Folies Bergères actuellement.
1, 2, 3. Europe 1.
Tous les jours 10h30, 12h30.
Les pieds dans le plat.
Cyril Hanouna.
Les pieds dans le plat, c'est sur Europe 1. On est bien avec vous tous les jours entre 10h30 et 12h30. Et Bernard Werber est avec nous ce matin. Il nous reste quelques minutes avec lui. Alors on va parler de vos recettes du bonheur. Est-ce que vous pouvez me donner un roman de Jules Verne qui vous fait voyager à chaque relecture ?
L'île mystérieuse, parce que chaque fois je me demande, et moi si j'étais sur une île, comment je me démerderais pour arriver à survivre. Et c'est pour ça que la série Lost aussi, par exemple, est complètement en phase. Donc l'île mystérieuse.
Vous n'avez jamais pensé à faire Koh-Lanta ?
Non, surtout pas. Hein ? Avec des caméras derrière, des types qui bouffent pendant que toi tu bouffes pas, ça c'est scandaleux.
C'est scandaleux. Un instrument de musique sur lequel vous aimez passer du temps pour vous déstresser ?
Je joue de la guitare électrique.
Et vous avez fait 6 ans de piano aussi.
Oui, c'est parce que ma mère était prof de piano, elle m'a collé au piano et du coup j'ai fait un rejet du piano et je suis allé vers la guitare.
Les peintures d'un artiste qui vous fascine.
Salvador Dali, parce que c'est le seul qui se posait tout le temps des questions de type scientifique pour améliorer ça. C'est-à-dire, il faisait des hologrammes, il faisait des trucs en relief, des trucs en perspective. Les autres, me semblent, enfin, de son époque, semblent tout le temps cantonnés à une dimension. Lui, il cherchait d'autres dimensions.
Et vous aimez peindre, vous aussi, hein.
Je peins, oui, mais pas de manière vraiment remarquable.
Votre moyen de transport favori pour vous détendre en allant bosser ?
Vélo. Je circule à vélo. De toute façon, j'avais avant une petite Smart et Paris est tout bloqué. On peut plus circuler dans Paris, donc il y a plus que le vélo. Il y a pas de choix.
Et vous aimez bien également le métro aussi. Vous aimez bien vous retrouver dans le métro.
Je vais de temps en temps dans le métro, mais alors dans le métro, c'est un peu spécial.
Vous détestez.
J'aime pas trop. Mais quand je le fais, je regarde les têtes des gens et j'essaie de me projeter pour essayer de savoir quelle est leur vie.
Ah oui.
Et ça me fait des personnages.
Mais moi aussi, je fais ça. Mais ici, pendant l'émission, en regardant les personnes autour de la table. Un film de science-fiction dont vous auriez aimé écrire le scénario.
2001, l'au-dessus de l'espace. Je l'ai vu 7 fois. Les 3 premières fois, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ennuyeux? J'ai l'impression que tout le monde prétend que c'est bien, mais c'est nul. Et tout d'un coup, j'ai eu la révélation. Ce film est plus qu'un film, c'est une prophétie. Et je le revois régulièrement. Et chaque fois, je me dis, ce type a compris un truc que nous sommes en train de commencer à comprendre.
Oui, parce que quand on voit le film la première fois, c'est vrai qu'on ne le comprend pas.
Ah, c'est ennuyeux.
C'est
mais
ça.
Il est bizarre, même. Mais il faut le regarder plusieurs fois.
C'est comme Valérie, il faut la connaître plusieurs fois.
Bernard Werber, Les micro-humains, c'est sorti le 3 octobre aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous, Bernard.
Merci à vous de m'avoir
invité. On s'est régalé à vos côtés pendant 7 heures sur Europe 1. Merci, Bernard, d'avoir été là. Dans un instant, on va se retrouver, on va jouer sur Europe 1, puis il y aura l'histoire de Pierre Bellemare. À tout de suite.
Europe 1. 10h30, 12h30. Les pieds.
Les pieds dans le plat.
Dans le plat.
Cyril Hanouna.